Vous êtes sur RTL.
Allô maman bobo.
RTL.
Allô maman bobo.
Ça va beaucoup mieux, l'hebdo, avec Michel Simès.
Chers amis des DM du dimanche matin, bonjour, ravi de vous retrouver avec toute la bande, Patrice Romden, Christophe Brun, Emma Strack. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Michel.
Bonjour à tous.
Alors les amis, aujourd'hui c'est la journée mondiale pour le droit aux origines.
Ah
bah oui, vous saviez pas ça. Hein. Je suis allé donc chercher des informations sur vos noms, mes amis.
Ah moi je sais. Je sais d'où je viens.
Alors dites-le parce que pour vous j'ai rien trouvé.
Alors Michel.
Ça vient de Belgique, Romden,
oui,
non ?
Il y a dans les Ardennes belges une petite ville qui s'appelle Romden, en toute simplicité.
Oui.
Et voilà, c'est pas très joli.
Non, je vous le confirme. Ah, le lieu, je ne sais pas, mais le nom, c'est possible. Donc, Romden, on n'a pas grand-chose.
Et on y fabrique, figurez-vous, j'ai été stupéfait lorsque j'ai vu ça, du foie gras.
C'est pas vrai. Ouais. En Belgique.
Ah, je comprends.
C'est un scandale. Alors, pour vous, Emma, oui. En revanche, je n'ai rien trouvé.
Ah, d'accord, mais vous avez bien
je
bossé.
Je n'ai rien trouvé sur Strack. Vous connaissez vos origines ou pas ?
Elles sont flamandes, selon moi, donc on est quasi voisins.
Voisins,
hein.
Ouais.
Bah ouais, c'est ça.
En revanche, cause cri-cri, sur Brun, là, j'ai trouvé des choses.
Ah, ouais.
Brun. C'est très magnifique. Répandu en France, le nom est surtout porté en Provence et dans la région Rhône-Alpes. Il peut désigner celui qui a les cheveux bruns, ça ne vous concerne donc pas, mais c'est aussi un nom de personne d'origine germanique. Bruno, racine brun égale brillant, ce qui peut expliquer certains de vos traits de caractère qui frôlent la manie et la psychorigidité. On retrouve le nom brun dans de nombreux noms composés issus pour la plupart de l'Isère, ce qui explique votre amour des sports d'hiver quand il s'agit de rester le plus longtemps possible dans les restaurants sur les pistes. Mais
et devant la cheminée.
Et devant la cheminée.
Parce que comme dit Christophe Brun, j'aime pas le ski moi, j'aime la montagne.
Mais je m'égare, je m'égare. Et surtout, les amis, nous souhaitons une super fête des mères à toutes les mamans qui nous écoutent aujourd'hui.
C'est la mienne qui va être contente en entendant tout ça.
Oui.
Ça,
voilà. Emma, vous nous parlez de quoi aujourd'hui ?
Eh bien, cette crise sanitaire a été l'occasion de nombreuses petites révolutions en matière de santé. On avait déjà parlé du boom des recours à la médecine et à la chirurgie esthétique. Aujourd'hui, celui de la télémédecine en sexologie.
Patrice.
C'est aujourd'hui la journée mondiale de la lutte contre la sclérose en plaques, une maladie particulièrement invalidante et d'autant plus vicieuse qu'elle avance masquée. Cette maladie touche quelques 100 000 personnes en France et nous en parlons ce matin à travers le destin d'une actrice, Marie Dubois. Vous vous rappelez Marie Dubois ? C'est la jolie blonde aux yeux bleus dont Bourville tombe amoureux dans la grande vadrouille.
Christophe.
La tristitude.
Ah oui.
Ah, notre ami Oldola.
Marche pieds nus sur un tout petit Lego.
Ah ouais.
C'est quand lors d'un.
Je l'adore.
Ah oui, oui, c'est la tristitude d'Odelaf. Mais la tristitude, c'est aussi quand tu cours et que tu crois que tu vas gagner, mais que tout d'un coup arrive un point de côté. Et ça fait mal. Oui, ça fait mal. Ce sera notre thème du jour, le point de côté. Alors, c'est pas une fatalité non plus. On va voir dans quelques minutes comment vous pouvez l'éviter et aussi comment vous en débarrasser si d'aventure vous en aviez un. Je suis comme ça, moi. Je vous aide, je vous aime parce que...
La tristitude, c'est... C'est eux.
Jusqu'à 10h sur RTL. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
La tristitude.
Emma, on commence donc avec vous et le recours grandissant aux consultations en ligne en matière de sexologie. Comment ça se fait donc ?
Eh bien, on peut dire qu'il s'agit d'un bel alignement de planètes qui conjugue confinement, sujet tabou et nouveaux profils de patients. D'abord, souvenez-vous, au premier confinement, on n'allait pas chez le médecin, sauf pour un motif de santé urgent. Logiquement, cette situation a provoqué un boom des téléconsultations. D'après l'assurance maladie, on est passé de quelques milliers de téléconsultations par semaine avant le confinement à 1 million hebdomadaires pendant. En avril 2020, donc en plein cœur du confinement, les téléconsultations représentaient 27% des consultations au total, plus d'une sur quatre. En majorité, ça concernait un rendez-vous avec le généraliste, mais il y a aussi des téléconsultations avec un psychiatre, un pédiatre, un gynéco, un dermato.
Ou un sexologue. Donc, généralement, le patient avait déjà consulté son médecin avant, en présentiel ?
Oui, mais le docteur Gilbert Boujaoudé, sexologue et directeur scientifique de deux plateformes plateformes en ligne, témoigne aussi avoir vu débarquer un nouveau type de patient. Il me confiait que 78% des hommes qui sont venus téléconsulter en 2020 ne seraient jamais venus en présentiel. Et en plus, ils ont continué à venir après. Donc ça, c'est pas mal.
Quel est le profil de ces patients ?
Alors, ce sont des hommes jeunes. Là, on parle d'une plateforme dédiée aux hommes. Donc, ce sont des hommes jeunes, la moitié à moins de 30 ans. Des hommes qui s'informent beaucoup en ligne et qui ne vont pas forcément pousser la porte du cabinet par peur, par honte, par tabou. Et résultat, ils surfent sur des sites, ils lisent des articles et vont acheter des produits en ligne pour tenter de prendre en charge tout seuls, eux-mêmes, leurs soucis d'érection ou d'éjaculation précoce, par exemple.
Donc c'est une longue errance en ligne qui peut en plus poser des problèmes.
Et oui, alors un problème de diagnostic d'abord, parce qu'on n'est pas tous sexologues et parfois le patient ne pose pas le bon diagnostic, donc forcément, il ne se dirige pas vers une automédication appropriée. En plus de ça, l'info qu'on va trouver en ligne n'est pas forcément pertinente, loin de là. De manière générale, c'est essentiel de savoir qui vous parle sur Internet. Est-ce que c'est un professionnel ? Est-ce qu'il est légitime ? Est-ce qu'il a quelque chose à vendre ? Des intérêts à défendre ? Voilà, c'est pas toujours facile d'y voir clair. Et puis, dernier gros problème, c'est celui des médicaments. Je mets un gros guillemet autour de médicaments qu'on achète en ligne. En matière de sexo, c'est un énorme marché, notamment parce que c'est un sujet tabou et que les patients préfèrent acheter en ligne que de parler de leur souci à un médecin ou d'affronter le regard du pharmacien. Mais le problème, c'est que quand on achète sur Internet un médicament censé stimuler l'érection, par exemple, rien ne garantit que ce n'est pas une contrefaçon qui contient une autre molécule qui peut s'avérer inefficace ou au contraire toxique. Donc franchement, c'est à éviter.
Ouais, il vaut mieux privilégier la consultation avec un professionnel, que ce soit en ligne ou pas. Alors je rappelle que le médecin, quelle que soit sa spécialité, n'est pas là pour vous juger, mais pour vous apporter des soins.
Oui, il peut aussi vous envoyer une prescription quand la consultation a lieu par écran interposé, ordonnance pour un médicament ou une thérapie digitale, c'est-à-dire un programme d'accompagnement qui repose sur des vidéos et des exercices à faire à la maison. Ça peut concerner les troubles de l'érection ou de l'éjaculation précoce pour les hommes, les douleurs à la pénétration ou le vaginisme pour les femmes.
Vous l'avez cité, justement, on va le prendre en ligne, le docteur Gilbert Boujaoudé, notre sexologue préféré. Bonjour.
Bonjour Michel.
Vous êtes directeur scientifique des plateformes Charles... Ça c'est quoi ? Charles.co ?
Charles.co et Mia.co. Ouais.
La première est destinée aux hommes et la seconde aux femmes. Comment ça fonctionne ces thérapies ?
En fait, il y a la téléconsultation classique, et là on se rend compte que la majorité des patients, en tout cas en sexologie, c'est des personnes qui n'osaient pas en fait aller consulter, c'est-à-dire c'est des personnes qu'on ne voyait pas dans nos cabinets. Et la plupart d'entre eux, c'est des personnes qui achetaient des produits à droite, à gauche, et qui tout d'un coup se sont dit, tiens, je vais m'adresser à un professionnel. Donc ça, c'est la première partie, c'est les téléconsultations avec un médecin sexologue. Et la deuxième partie, c'est les thérapies digitales, c'est-à-dire, au lieu d'avoir des rendez-vous répétés avec un professionnel, si on estime que la personne, en fait, relève simplement de répéter des exercices, apprendre des techniques mentales, à améliorer l'alimentation, faire des, par exemple des de la rééducation du périnée, mais simple, tout seul chez soi, etc. Alors, il y a un programme. Chaque semaine ou chaque 10 jours, la personne reçoit une vidéo avec un document par mail qui lui explique ce qu'il y a à faire sur la semaine. Et toutes les semaines, il reçoit une nouvelle recommandation pour 2-3 exercices à faire durant la semaine.
Christophe.
Gilbert, je peux vous appeler Gilbert.
Oui.
J'ai une question, c'est pour un ami. Est-ce que la la semaine dernière, il était à la droite, maintenant il est à ma gauche en fait. Juste non, est-ce que sur ce sujet sensible, sérieusement pour le coup, la téléconsultation est aussi efficace que le présentiel ?
Alors, sur beaucoup de situations, oui, elle est, parce qu'en fait en médecine sexuelle, l'examen clinique est pas souvent recommandé, c'est-à-dire on n'en a pas vraiment besoin. Donc c'est vrai que ça se passe beaucoup par l'entretien clinique. Il y a des situations où l'examen clinique est recommandé et là on va l'expliquer aux patients. L'expérience m'a montré que c'est des patients qui n'avaient rien sans la téléconsultation. C'est-à-dire ils n'allaient pas en consultation, ils achetaient des produits dangereux parfois en ligne. Ils étaient en errance en fait. Et donc entre ne rien avoir et avoir une téléconsultation qui peut-être parfois apporte un peu moins de choses que la consultation en présentiel, franchement c'est des personnes qui sont largement bénéficiaires de la téléconsultation. D'ailleurs on a remarqué que la majorité de nos patients reviennent en fait aux consultations de suivi, parce que c'est pas juste une consultation, on prescrit et merci, au revoir. C'est consultation, prescription, proposition d'un suivi, et en fait la majorité continue le suivi lors des mois et des consultations suivantes.
Est-ce que vous avez constaté un impact de la crise sanitaire et des différents confinements sur la sexualité des Français ?
Oui, carrément. Pas sur le premier confinement, mais là depuis quelques mois, oui, on commence à se rendre compte que ça devient pesant, pénible. Des personnes, par exemple, qui n'avaient jamais eu de troubles de libido, qui n'ont pas de raison particulière d'avoir des troubles de libido, hommes ou femmes, et qui commencent à avoir des troubles de libido simplement parce que la vie devient pesante, ennuyante, il n'y a plus de moments où on s'amuse, il n'y a plus de moments où ils sortent un peu. Et donc, oui, on a clairement vu un impact sur le côté psychologique, sur la libido et les problèmes sexuels.
Merci beaucoup, Dr Gilbert Boujaoudé, sexologue et directeur scientifique des plateformes charles.co pour les hommes et mia.co pour les femmes. Merci pour ces explications. Je pense qu'on vous reprendra en ligne un de ces jours. C'est un sujet qui nous intéresse. Dans quelques instants, avec Patrice, on va parler sclérose en plaques.
RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo. RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Mais dites-moi, Patrice, c'est la musique de La Grande Vadrouille.
Mais oui, La Grande Vadrouille, film dans lequel jouait Marie Dubois. Vous savez, c'est la jolie blonde qui se fait draguer par Bourvil, qui est tétanisée lorsqu'il voit sa beauté.
Hein ? Alors, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la lutte contre la sclérose en plaques. Hein. Je rappelle cette maladie inflammatoire auto-immune, c'est-à-dire que chez les malades, leur propre système immunitaire se retourne contre eux et ça se traduit, entre autres choses, par des troubles moteurs. Une maladie dont souffre Dominique Farrugia ou encore Selma Blair, mais c'est une autre actrice, effectivement, dont vous allez nous parler ce matin, Dubois.
Effectivement, Marie Dubois, elle n'a jamais oublié le moment où tout est devenu douloureusement évident, pour reprendre son expression. Elle est alors actrice confirmée, elle doit jouer une pièce de théâtre et pendant un mois elle répète avec le texte dans les mains. Tout se passe bien jusqu'au moment où l'on aborde les ultimes répétitions, celles où l'on joue sans le texte. Et là, Marie Dubois est prête, elle entre sur scène et c'est le trou noir, le trou abyssal. Rien n'est sorti, dira-t-elle plus tard.
Et c'est la sclérose en plaques qui lui a tout simplement volé sa mémoire. Marie Dubois a parfaitement compris ce dont il s'agissait parce que des années auparavant, elle avait déjà connu une première alerte.
Oui, dès 1959, elle n'a alors que 23 ans, elle tourne Ne tirez pas sur le pianiste sous la direction de François Truffaut. Et c'est sur le tournage que survient la première alerte. Mais pendant 20 ans, elle va occulter, penser à autre chose, faire comme si de rien n'était. Pas question d'hypothéquer la carrière qui s'offre à elle. Elle confessera des années plus tard qu'elle ne l'aurait de toute façon pas supportée. Alors, la carrière se poursuit, cependant que la maladie, elle, progresse. Et en 93, eh bien, c'en est trop. Elle doit faire le deuil de son métier et elle le fera avec l'aide de psy. Commence alors une longue marche, une longue tranche de vie où elle enchaîne les séances chez le kiné et apprend à vivre au ralenti. Quand elle décide de marcher, c'est pour 150 mètres en s'appuyant sur des béquilles. Quand elle fait sa toilette, ça lui prend 2h30 quand même.
Et pourtant, elle réapparaîtra devant les caméras.
Oui, mais ce sera au soir de sa vie pour un film réalisé par Alain Corneau dans le cadre d'une campagne en faveur de la recherche pour la sclérose en plaques, parce qu'elle trouvait en effet qu'on ne parle pas assez de cette maladie, dont elle regrettait d'avoir à dire et à redire sur les plateaux de télé que ce n'était pas une maladie de la peau, contrairement à ce que beaucoup imaginent. C'est évidemment beaucoup plus sérieux. Cette maladie inflammatoire, auto-immune, détruit par endroits la myéline, substance qui gaine, nourrit, protège les fibres nerveuses par lesquelles transite l'information entre le cerveau et le reste du corps. Et la particularité, c'est que 75% des malades sont des femmes.
Oui, voilà, c'est aujourd'hui la journée mondiale pour la recherche contre la sclérose en plaques, une maladie et une recherche qu'il faut bien sûr aider. Merci Patrice. On va changer de sujet maintenant et on va s'intéresser à l'enfance avec notre invitée Patricia Chalon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et présidente de l'association Enfance Majuscule. On a beaucoup dit que cette année de pandémie avait été une année particulièrement difficile pour les enfants et ce, de façon générale.
D'une manière générale, pour tous les enfants, ça a été très, très difficile. D'abord, je ne sais pas si vous vous rappelez, on les a considérés comme les propagateurs privilégiés du virus. Alors pour eux, ça a été la stigmatisation, ils ont été séparés, cantonnés. En plus, ils ont senti sur leurs épaules la responsabilité absolue de transmettre une maladie mortelle à leurs grands-parents, à leurs parents. Et puis on les a privés d'école, de copains, de relations sociales. ou quand il y avait des relations, c'était à travers des masques. Et pour les enfants en pleine construction, ça a été très, très difficile.
Il faut reconnaître que vivre avec ses enfants, c'est pas toujours facile, surtout encore plus en période de confinement et encore plus quand les gens ont des appartements qui ont des petites surfaces, et que la patience des parents a été mise à l'épreuve, et que des parents qui n'avaient même jamais eu un geste ou jamais hurlé sur leurs enfants ont parfois pu se laisser déborder.
Oui, mais des parents qui étaient même affectueux d'une manière générale et qui étaient des parents lambda ont commencé pour certains à être totalement débordés. Ils n'avaient jamais hurlé sur leurs enfants ou eu des gestes violents, et ils ont été complètement débordés par la situation. À part certains parents qui ont trouvé là un moyen d'être des éducateurs formidables et qui ne savaient pas à l'avance qu'ils l'étaient.
Et puis ça a été une année épouvantable pour les enfants habituellement victimes de violences aussi, hein, beaucoup plus de signalements.
Alors, pour cela, c'était épouvantable, effectivement, parce qu'ils étaient confinés avec les prédateurs. 24 heures sur 24, avec ceux qui étaient, ceux qui les faisaient souffrir. Et il y a eu une augmentation des signalements au 119 qui était incroyable, de 56%, c'est beaucoup, beaucoup. Alors là-dedans, il y a quelque chose qui est quand même une, on va dire, une bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que les voisins, les copains n'ont plus hésité à signaler. J'explique aussi cette importante augmentation des signalements. Et j'aimerais bien, enfin nous aimerions, nous, les associations de protection de l'enfance, que cette vigilance des voisins, des copains perdure.
Avec un numéro qu'on rappelle, le 119. Hein.
Le 119, on va redire pour les plus petits, le 119, ceux qui nous écoutent.
Voilà. Alors, il y a quand même, il y a beaucoup de points négatifs, hein, qu'on vient de souligner. Patricia, il y a quand même eu une bonne nouvelle avec cette loi qui met un seuil d'âge de 15 ans et de 18 ans en cas d'inceste. En gros, pas de consentement possible pour un acte sexuel avant 15 ans ou avant 18 ans pour un inceste.
Ça, c'est formidable, parce que ça fait depuis plus de 30 ans qu'on se bat pour qu'une telle loi existe, et c'est vraiment la bonne nouvelle de l'année. Ça veut dire que le consentement de l'enfant n'est plus interrogé. Il a moins de 15 ans, on ne se demande pas, on ne se demande plus s'il était consentant. Et quand il a, en cas d'inceste, on ne se le demande plus non plus s'il a moins de 18 ans.
Vous vous êtes adressé aux enfants avec le numéro 119 en rappelant que c'était le 119 pour signaler qu'on pouvait être victime de violence. Vous vouliez nous adresser un petit message, puisqu'on est dimanche matin, que les enfants écoutent peut-être cette émission dans laquelle ils apprennent plein de choses. Peut-être pas toujours des choses pour les enfants d'ailleurs, mais enfin bon, c'est pas grave, les parents, la mettent. Un petit message pour ces enfants à propos des fameux secrets.
Oui. J'essaie toujours de faire passer ce message, parce que je me dis que s'il y a un enfant qui écoute, peut-être que lui va faire le 119. Parce que aux enfants, on leur dit garde le secret, c'est un secret. Il y a toutes sortes de secrets. Il y a des jolis secrets. Par exemple, quand c'est la fête de mamie, et ben on va pas lui dire qu'on a préparé un immense gâteau, qu'on va faire une belle fête. C'est un très joli secret. Par contre, si quelqu'un te fait mal, te fait honte ou te met mal à l'aise, et si cette personne te demande de garder le secret ou te menace, alors ça ne peut pas être un bien, ça ne peut pas être un joli secret, même si c'est quelqu'un que tu connais bien. Et je pense que les enfants doivent tous savoir que c'est forcément un secret que tu dois partager. Ils doivent le partager. Parle-en à quelqu'un en qui tu as confiance jusqu'à ce qu'on te croie. Ou si tu es assez grand, appelle le 119, le 119. Il n'y a pas que des jeux du secret.
Merci beaucoup Patricia. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association de défense contre l'enfance maltraitée, Enfance Majuscule, et que vous vivez grâce aux dons. Donc n'hésitez pas à aider Enfance Majuscule. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Dans quelques instants, dans la troisième partie, ce sera la partie récré.
Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo. Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo.
Et c'est la troisième partie de l'émission, la partie récré avec le jeu. Je vous rappelle d'abord que nous sommes partenaires avec les magazines Dr Good. Il y a bien sûr Dr Good, En finir avec le mal de dos, qui est en kiosque actuellement, et le magazine C'est bon. la déclinaison alimentaire de Dr Good avec une belle fraise star vitaminée de l'été en couverture et un dossier sur les constipations, ballonnements, les aliments alliés de notre transit. Je vous offrirai ce numéro, Christophe. Alors, les jeux des auditeurs.
Je suis persécuté dans cette émission, c'est pas possible.
Et en même temps, c'est le revers de la médaille obligatoire.
Ah, tout à fait. Charles, bonjour.
Oui, bonjour.
Charles, vous avez 40 ans, vous habitez Montpellier, vous êtes professeur d'espagnol et vous êtes aussi chanteur dans un groupe qui fait les petits villages l'été, c'est ça ?
C'est ça, oui, tout à fait, oui.
Et alors, cet été, vous allez en faire ?
Ah, ben, c'est plutôt mal engagé, parce que je pense pas que beaucoup de comités des fêtes ou de municipalités prennent le risque d'organiser ce genre de manifestation. Eu égard, évidemment, aux risques sanitaires encourus.
Bien sûr.
Voilà.
Comment s'appelle votre groupe ?
Abraxas.
Abraxas. Et vous êtes plutôt dans le sud-ouest, alors ?
Dans le sud, dans l'Hérault, carrément.
Dans l'Hérault, vous allez faire les petits... Bon, bah, ouais. Si vous entendez, chers auditeurs, si vous voyez passer la caravane Abraxas, hein, vous saurez qu'il y a Charles, le chanteur. J'adorerais faire ça, moi. Être chanteur dans les groupes qui vont dans les petits villages l'été, c'était... Mais ça va revenir, ça va revenir.
Bah vous êtes toujours à temps, hein.
Ouais, ouais, je suis un petit peu vieux, alors. Bon, alors, et Charles, vous allez jouer avec nous pour gagner une semaine de vacances en famille avec VVF pour deux adultes et deux enfants. Une semaine en famille dans un des 100 villages de VVF en France avec tout ce qu'il faut, cheval, rando, paddle, VTT, rafting, tout ce que vous voulez. Vous pourrez choisir votre village à condition, bien évidemment, que vous trouviez la bonne version. Je vous rappelle, une histoire, trois versions. Une seule est bonne, deux autres sont fausses.
Ok.
À la fin du 19e siècle, à Baltimore, William Halstead, un chirurgien américain, travaille avec une infirmière, Caroline Hampton. Un jour, l'infirmière vient le voir et lui dit... Je ne peux plus travailler avec vous au bloc opératoire parce que je suis obligé de me laver les mains avec une solution caustique et ça me provoque à chaque fois une sévère dermatite. Je rappelle que c'est une maladie de la peau. Mm-hmm. La réaction du médecin va avoir des conséquences insoupçonnables. Ma question est, quelle a été sa réaction version Patrice ?
Alors le médecin entre dans une colère noire, il explique à l'infirmière que si elle n'est pas capable de supporter ses petits problèmes de peau, alors que lui, il sauve des vies, eh bien elle n'a qu'à rentrer chez elle. Et il la fait virer, sauf que l'infirmière décide d'aller en justice. Ça donnera lieu au premier procès de l'histoire de la médecine. L'infirmière touchera en dédommagement une somme qui mettra l'hôpital de Baltimore en faillite.
Version Christophe.
Carlo, el médico fue enamorado de la enfermera. Vous êtes professeur d'espagnol, Charles, je crois, non ?
Mais non, mais je comprends vous. Parfaitement.
Ouais, voilà, donc, bien. Alors je vais le dire en français, bravo. Parce qu'on n'est pas tout seul.
Bravo, c'est super.
Ah là là, comment il se met en valeur, hein, il se met en avant tout.
Et elle, no quería. Alors je vais le dire en français. Le médecin était amoureux de l'infirmière et il ne voulait en aucun cas s'en séparer. Il lui dit, bon, on continue à travailler ensemble, vous vous contentez de vous rincer les mains à l'eau, vous n'utilisez pas le savon, mais ça reste entre vous et moi. Le problème, c'est que les 7 opérations suivantes se traduisent par 7 décès. Les patients ayant été victimes d'une surinfection due à l'hygiène approximative de l'infirmière. On ne savait pas trop ce qu'elle avait fait de ses mains juste avant, en fait. Voilà, et il y aura enquête et tous les deux termineront en prison.
Voilà, ça c'est la deuxième version de coach Cricritos.
Cristobal, c'est dit. Oui, c'est...
Cristobal. Voilà, que tal version Emma.
La seule chose vraie dans ce qu'a dit Cristobal, c'est que le médecin était amoureux de l'infirmière et ne voulait pas s'en séparer. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il s'est adressé à une entreprise, Goodyear quand même, pour ne pas la nommer, à laquelle il a demandé de fabriquer quelques paires de gants en caoutchouc, très fins et très résistants. Et c'est comme ça que sont nés les gants chirurgicaux, qui est quand même une invention majeure qui a marqué l'histoire de la médecine, les gants ayant ensuite été adoptés dans le monde entier.
Et je pense que Charles, quand il a dit « je vous vois venir », il pensait aux préservatifs, c'est ça Charles ?
Non.
Parce qu'opérer avec des préservatifs, Charles, ça n'est pas utile.
Je pense avoir la bonne réponse quand même.
Allez-y.
Eh ben c'est la dernière, la troisième, les gants
mais
chirurgicaux.
Oui.
Applauso.
Ça marche, hein, applauso. Ouais. Je le garde. Okay,
moi je parle espagnol, je mets os ou s à la fin de chaque mot.
Ouais, ouais, on met des o à la fin. Ça marche.
C'est comme ça qu'on devient prof d'espagnol.
Le portes de Gantos, donc hématès.
Eh ben non seulement.
Vous savez comment Vous savez comment on dit ça en espagnol? On dit guantes.
Guantes. D'accord.
El porte de guantes, non seulement protège les mains des des chirurgiens et des infirmières, mais en plus, les patients, des germes, hein, comme dans votre histoire, qui pourraient leur être transmis par ceux qui opèrent quand leurs mains seraient parfaitement lavées, quand bien même leurs mains seraient parfaitement lavées. Le nombre d'infections a chuté de manière vertigineuse partout où le port des gants chirurgicaux a été systématisé. Mais ça a quand même pris du temps. Il a fallu attendre la deuxième moitié du XXe siècle pour que la pratique devienne universelle.
Eh bien Emma, merci. Alors Charles, merci, bravo, vous avez
merci,
gagné
une
semaine de vacances en famille avec VVF. Vous pourrez choisir votre village et vous aurez plein d'activités. Tiens, on va vous mettre une petite musique pour vous, ça.
Ah ben, c'est cool. Allez.
Paco de Lucia.
Bien,
hein,
c'est bien.
Hein, voilà, en fait, on s'adapte à nos invités.
Ouais. Paco de Lucia, très bien.
Merci.
Écoutez, c'est adorable. Merci pour toutes ces attentions.
Merci Charles, et puis j'espère qu'on retrouvera... Redonnez-moi le nom du groupe, je ne l'ai pas retenu.
Abraxas.
Et j'espère qu'on retrouvera Abraxas dans le sud de la France. Et si jamais j'y vais et que je vous vois passer, je viendrai pousser la chansonnette avec vous,
Charles,
sur scène. Merci beaucoup à vous. Les amis, on a un petit peu de temps pour des petites brèves, Emma.
Vous voulez un petit quiz en mode question pour un champion?
Oui. Allez, vas-y.
Allez, on y va.
Question pour un champion.
Top, je suis un médicament et pas n'importe lequel, puisque je suis
le Viagra,
le médicament le plus vendu en France, le plus remboursé par l'assurance maladie aussi, avec 270 millions de boîtes prises en charge par la Sécu pour l'année 2019. Antidouleur présent dans toutes les armoires à pharmacie, ma boîte la plus connue et jaune, mais je suis aussi décliné en rose, en bleu, en vert. Je suis
Le Doliprane.
Bien sûr. Le paracétamol, parce qu'il y en a d'autres. Doliprane, c'est une marque commerciale, mais il y en a d'autres qui font du paracétamol. Patrice.
Qui a entendu parler du Takotsubo?
Ouh là là,
moi.
Le Takotsubo.
C'est une maladie.
C'est un aliment.
Un syndrome.
Très étonnant, ouais. Ouais. C'est le syndrome de l'amphore, en fait. C'est au Japon.
C'est le syndrome du cœur brisé. Ouais. Et on s'aperçoit qu'avoir le cœur brisé, en fait, ça n'est pas qu'une image. Hein. C'est l'expression pour l'auteur. C'est une expression pour auteur de romans à l'eau de rose.
Allez-y,
mais ça peut aussi être une réalité. Hein. On peut effectivement avoir le cœur brisé, ouais.
Il prend la forme d'une amphore, je crois, le cœur, et c'est ça qui...
Oui, alors il y a toute une image liée à la symbolique japonaise. En fait, l'amphore, c'est un piège à poulpe, normalement,
voilà,
et effectivement,
exactement.
Le cœur se transforme en amphore, et on appelle ça le Takotsubo, quand vous avez un problème
Quand vous mourrez.
Quand
vous avez un problème,
Patrice est au bout de sa vie
au Japon, et que, brutalement, ça peut être le Takotsubo. Christophe.
Moi, c'est un peu plus terre à terre, c'est la visite d'un chirurgien après une opération en chirurgie digestive qui va voir son patient, donc, et qui lui dit: alors tout va bien, vous avez des gaz? Et le monsieur lui dit: oh, pas de quoi soulever les draps non plus, hein.
Ami de la poésie, bonjour.
C'est très frais, muy bonito.
Non, mais ça m'a été raconté par un copain chirurgien. Ça m'a fait marrer.
Moi, j'ai une petite recette maison, de lave-vitre. Alors, quand vous aurez terminé votre vaporisateur que vous avez acheté dans le commerce, vous le gardez et vous faites votre propre lave-vitre en mélangeant 750 ml d'eau tiède et 250 ml de vinaigre blanc qui a des propriétés anti-calcaire et anti-graisse. Et le tour est joué, et je vous garantis qu'en plus de laver vos vitres, ça ne va pas polluer l'air intérieur de la maison.
Je peux vous dire que le vinaigre blanc, je pense que j'en utilise à peu près des dizaines de litres par an, ne serait-ce que pour nettoyer la plancha, par exemple. Vous voyez, ça dissout les graisses et ça nettoie en même temps. C'est formidable.
Je suis témoin.
Et ça ne coûte rien. Les amis, je ne vous permets pas de dire un mot de plus puisque nous n'avons plus le temps et que nous allons faire une pause et qu'ensuite nous retrouverons Coach Cri-Cri qui va nous parler d'un point, mais pas le point G.
RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. L'hebdo. Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo.
Et ça fait mal, 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 la tristitude. C'est moi, c'est toi.
Qu'est-ce que c'est bon. Salut Oldolaf, qu'on adore dans cette émission. Alors Christophe, aujourd'hui, vous n'allez pas nous parler du point T à la ligne, du point du jour, du point culminant, et encore moins du point G.
De quoi on parle alors?
Vous allez nous parler du point de côté.
Ah, ah. Quelle allégorie, Bichette. Alors, déjà, le point de côté a
Bichette,
un avantage.
Vous l'avez appelé Bichette.
Bichette, oui.
Dans la vie, il m'appelle Bichette.
Bichette. Bichette.
Voilà, donc, maintenant, alors... je crois qu'il y a 2 millions de personnes qui le savent.
C'est très bien, ça vous restera. Le point de côté a quand même un avantage, et c'est le seul d'ailleurs. Il est plus facile à trouver que le point G, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, au fait, Emma, Patrice, vous savez ce que c'est que la date ?
La date ou la date,
date.
C'est le fruit du datier.
Non, pas du tout.
C'est ce qu'il y a dans le calendrier.
C'est la douleur abdominale transitoire liée à l'effort. C'est donc le fameux point de côté.
Ah oui, voilà.
Alors, il y a deux explications possibles au point de côté. Soit une crampe musculaire du diaphragme, le muscle qui sépare le thorax de l'abdomen, à cause d'une mauvaise oxygénation lors de l'exercice physique. Ou alors, cette douleur peut aussi être causée par la traction exercée pendant l'exercice physique par les organes abdominaux, le foie, l'estomac, la rate, sur les ligaments qui les lient justement à ce muscle, au diaphragme.
Exactement, d'où l'intérêt avant le sport de manger suffisamment tôt et pas trop en grande quantité. Environ, il faut compter 2 bonnes heures digestion comprise pour ne pas être gêné par votre repas non encore digéré dans votre estomac.
Ça veut dire que si j'ai un match de tennis vers 15h par exemple, je dois avoir fini de déjeuner vers midi et demi, 1h maximum.
Exactement, et vous n'avalez pas d'aliments trop riches en graisse et en fibres qui mettent plus longtemps à être digérés. Ça ne veut pas dire que ces aliments sont mauvais. Attention, ça veut dire juste qu'avant de courir, ils ne sont pas indiqués. Préférez donc les aliments protéinés, comme la viande blanche, le poulet par exemple, c'est très bien. Et quelques glucides comme les pâtes, et vous pourrez courir derrière la baba, les mains, sans aucune gêne.
Alors, à part l'alimentation, mon cher
Christophe, ils veulent me poser la même question.
Comment on fait pour éviter la survenue du point de côté ?
Alors, vous faites un échauffement sérieux, Emma, avant votre match de tennis, ou Patrice avant votre jogging, même si je sais que votre dernière course à pied date d'avant les grèves. Faites une bonne préparation à votre effort, marchez, puis trottinez, faites monter doucement et la température et la fréquence cardiaque, avec des petits sprints au départ, des montées de genoux, des allongements de foulée. L'idée est de bien gérer cette période de préparation juste avant l'effort lui-même. Sans ça, vous pourrez avoir des irrégularités en termes de respiration qui peuvent se transformer en gêne respiratoire. Vous êtes froid, vous ventilez à marche forcée, donc vous vous exposez au mauvais contrôle de votre diaphragme et vlan, voilà le plein de côté.
Et
le
vous pensez quoi de tous ceux qui disent qu'il faut respirer en suivant la fréquence des foulées.
Alors j'adore ce moment. Vous voulez savoir ce que j'en pense ?
Ouais. Ah, une petite imitation.
Eh bien, je vais vous le dire. Alors, comment on dit en espagnol ?
Es una tontería.
Es una tontería, comme on dit en espagnol. Donc, et en bon français, c'est une connerie. Pardonnez-moi, mais deux choses. Est-ce que vous faites ça en marchant ? La réponse est non. Quand vous marchez, vous ne rythmez pas votre respiration sur les pas. Ça ferait...
Ne le fais-je pas inconsciemment ?
Non, vous ne le faites pas. Ce que je recommande, c'est de dissocier ce qui se passe entre le haut du corps et le bas du corps. Les jambes tournent, quelquefois assez vite, mais la respire doit se faire à son rythme, sans vouloir absolument suivre la fréquence des pas. Alors si vous sprintez ou que vous faites de la vitesse sur piste, naturellement vous aurez une haute fréquence et de pas et de respiration, mais sur un jogging, en endurance, vous devez vous détendre, vous relâcher et trouver cette différence de rythme entre les pieds qui tournent et la respiration. Vous respirez mieux, de façon cool, vous éviterez la survenue du point de côté.
Alors, on a le point de côté. On n'a pas pu l'éviter.
Voilà,
qu'est-ce
ça arrive. Alors, vous expirez profondément.
Ah bah voilà, c'est ce que je fais.
Voilà, fort, hein, profondément, sans vous arrêter, jusqu'à ce que votre diaphragme soit libéré, et hop, vous remettez la gomme et c'est reparti.
Ouais. Quand j'entends la dernière phrase, je suis content qu'on n'ait pas parlé du point G. Hein.
Alors, qu'est-ce que j'ai dit ?
Remettez la gomme. Point de côté.
Oui, c'est vrai. Ou le point de côté.
Il y a un truc qui circule sur Internet, il suffirait de faire son footing... Attendez, en serrant un caillou dans la main pour prévenir le point de côté. Et alors, c'est pas le fait de serrer le caillou qui vous empêche d'avoir le point de côté, mais il paraît que ça détourne l'attention parce que vous pensez à une chose, il ne faut pas que je fasse tomber le caillou. Donc ça détourne l'attention, c'est une sorte de dérivation. Et du coup, vous n'avez pas le point de côté, paraît-il.
Vous serrez un caillou et vous mettez le point de côté, mais le point de la main.
Alors ça,
c'est peut-être un peu trop pour vous. Christophe, Emma, Patrice, vous avez un petit peu de temps pour une petite brève.
Moi, j'ai le temps, et vous donc ? Vous connaissez l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, la vue, mais est-ce que vous saviez qu'on est équipé d'autres sens ?
Le sens interdit.
Que les 5 ?
Ouais, exactement. Alors, pour mémoire, je vais vous dire.
Il y a le 6e sens déjà.
Nos sens nous permettent de récupérer de l'information de notre environnement. Mais nous sommes aussi capables, au-delà de tout ce qu'on connaît, de proprioception, c'est-à-dire de percevoir la position de notre corps et de nos membres. Également l'équilibrioception, le sens de l'équilibre, pour éviter les chutes. La thermoception, ça c'est la perception de la température, qui va par exemple vous guider à ne pas saisir à pleine main une casserole bouillante. La nociception, nociception à l'origine du message nerveux qui concerne la douleur et qui nous dira par exemple de lâcher le manche. Voilà.
De lâcher la casserole chaude.
Ouais, voilà.
De la casserole chaude, bien évidemment.
Merci de préciser.
Et Patrice.
Le savon est composé de molécules amphiphiles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Amphiphiles.
Ça promet.
Qu'elles grossissent avec de l'eau.
Qui est Phil ? Non.
Qui est Phil, en fait ? Parce que lui, quand même.
Ouais, alors, amphiphile, cela veut dire qu'une partie de la molécule est hydrophile, c'est-à-dire qu'elle aime l'eau et peut se mélanger avec l'eau, et qu'une autre partie de la molécule est hydrophobe. C'est-à-dire qu'elle n'aime pas l'eau et refuse de se mélanger avec elle. Amphiphile.
Ah, oh, c'est beau.
Tu retiens des choses. Amphiphile.
Mon amphiphile.
Alors, merci beaucoup Patrice, merci beaucoup Christophe,
de rien.
Et merci beaucoup Emma pour ce moment passé ensemble. On se retrouve bien sûr dimanche prochain à 9h15 avec la petite bande et comme on le dit toutes les semaines. Et oui, la belle vie revient, mais n'oubliez pas qu'il faut rester très vigilant. Les masques, le lavage au gel et la distanciation sociale si on veut passer un bel été. En tout cas, nous, on sera là la semaine prochaine à 9h15.
Bonne
bientôt,
semaine,
les amis.
Bonne
à
journée.
Dimanche.
RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. L'hebdo.